Vous êtes sur Europe 1, il est 22h.
Europe Nuit.
Alexandre Lemaire.
Bonsoir. Les soupçons des enquêteurs se sont révélés juste à Clessé, en Saône-et-Loire, après la découverte ce matin du corps d'une adolescente poignardée. Son petit ami est passé aux aveux. Emmanuel Macron a boulet rouge contre Jean-Luc Mélenchon. À 3 jours des législatives, le chef de l'État en visite dans le Tarn a de nouveau attaqué son principal adversaire sans jamais le nommer. Ne comptez pas sur les images de vidéosurveillance du Stade de France pour comprendre les incidents du 28 mai. Elles ont été effacées, c'est ce qui ressort des auditions aujourd'hui au Sénat. Détail à suivre. La fin programmée du moteur à explosion en 2035 après le vote des eurodéputés. Énorme défi pour l'industrie automobile. Le compte à rebours a commencé pour transformer l'appareil de production. Le temps pour cette fin de semaine, on va vers une franche amélioration. Ça veut dire un week-end estival. L'invité politique à 22h20, Denis Cislik, 27 ans, est proche d'Éric Zemmour. Il se présente pour Reconquête dans les Alpes-Maritimes. Et enfin, un petit coup d'œil aux unes de la presse avant la libre antenne.
Europe 1.
D'abord donc les aveux du jeune gardé à vue après la découverte ce matin du corps d'une adolescente de 14 ans à Clessé près de Mâcon. Ces aveux sont ceux du petit ami de la victime, âgé de 14 ans. Lui aussi, il a reconnu l'avoir étranglé et poignardé. Le procureur a tenu une conférence de presse en fin de journée et livré plus de détails. Jean-Luc Boujon.
Oui, effectivement, il a expliqué que le corps sans vie de l'adolescente a été retrouvé au petit matin derrière l'école du village par une habitante qui a immédiatement remarqué le couteau encore planté dans le cou de la collégienne, preuve du degré de violence dont a fait preuve son petit ami, un garçon âgé de 14 ans, qui a reconnu les faits en garde à vue, explique le procureur de Mâcon, Éric Jallet.
Il reconnaît avoir, comme à son habitude depuis quelques jours, convenu d'un rendez-vous avec cette jeune fille, qu'il s'était muni d'un couteau, qu'il avait discuté avec elle, qu'il avait placé ce couteau dans sa manche, et après avoir discuté quelques instants avec elle, lui avait porté 3 coups de couteau au niveau du cou. Elle avait tenté de fuir, il l'avait rattrapée, avait tenté de l'étrangler, puis avait porté à nouveau des coups de couteau, laissant le couteau sur place et rentrant chez lui.
Alors à ce stade, l'adolescent n'a pas donné d'explication à son geste. Il a juste dit qu'il voulait tuer quelqu'un, mais sans préciser ce qui avait provoqué son passage à l'acte. En tout cas, les amis de la jeune fille décrivent une relation compliquée entre les deux adolescents et même un garçon toxique qui menait depuis des mois la vie dure à sa petite amie. Écoutez Méline, l'une de ses camarades.
Ça faisait un moment qu'elle n'allait pas bien à cause d'un garçon, on va dire, qui l'a manipulé beaucoup et qui lui faisait faire plein de bêtises. Ils étaient amoureux les deux, mais enfin, il lui faisait plein de crasses, enfin, il faisait un peu n'importe quoi avec elle, il l'insultait, il la faisait sortir la nuit, plein de trucs comme ça. Et la nuit, il se rejoignait, je sais pas ce qu'il faisait, mais en tout cas, il était pas très gentil avec elle. Elle avait changé, elle était plus comme avant.
Alors l'adolescent qui va continuer d'être interrogé par les gendarmes, sa garde à vue peut durer jusqu'à 48 heures.
Jean-Luc Boujon à Mâcon pour Europe 1. Ce jeune adolescent risque donc jusqu'à 20 ans de prison. L'affaire du refus d'obtempérer lors d'un contrôle routier à Paris. On apprend ce soir la mise en examen du conducteur pour tentative d'homicide volontaire. Âgé de 38 ans, il avait été grièvement blessé par des tirs de la police. Son état de santé était jusqu'ici incompatible avec une garde à vue. Cet automobiliste est maintenant placé en détention provisoire sur le lieu même de son hospitalisation. À Montauban maintenant, une conductrice âgée de 88 ans, a tué 2 femmes qui traversaient la route sur un passage piéton. La retraitée affirme ne pas les avoir vues. Les 2 victimes avaient 84 et 67 ans. L'automobiliste en état de choc a été hospitalisé. Dimanche, on vote. Premier jour des législatives et à 3 jours de ce nouveau premier tour, pardon, des législatives. On est donc à 3 jours de ce nouveau rendez-vous dans les urnes. Emmanuel Macron était aujourd'hui dans le Tarn pour répondre aux attentes des Français en matière de sécurité. Une visite d'abord à la gendarmerie de Gaillac, un discours ensuite dans le village de cartes postales de Puy-Celcy. Emmanuel Macron près des Français donc, mais aussi les yeux rivés sur les sondages où la NUPES monte et menace maintenant sa majorité. Ce discours du chef de l'État Jacques Seret, c'était surtout un discours de campagne.
Oui, debout à la tribune, dos aux collines du Tarn et face aux habitants de ce village, Emmanuel Macron cible d'entrée sans le nommer Jean-Luc Mélenchon qui a accusé la police de tuer.
Il y a des choses que, de là où je suis, je ne peux pas accepter. C'est qu'on insulte celles et ceux qui risquent leur vie pour protéger la nôtre.
Le président se pose en défenseur de l'ordre et diabolise ses adversaires.
Les extrêmes aujourd'hui proposent d'ajouter de la crise à la crise en revenant sur les grands choix historiques de notre nation. Revenir sur les alliances qui, comme l'OTAN, assurent la sécurité collective et protègent les peuples. en proposant, de quelque extrême qu'il s'agisse, de mener des alliances, je dois le confier quelque peu baroque dans le moment où je parle, avec la Russie.
Diabolisation du leader des Insoumis et de Marine Le Pen et dramatisation du contexte.
Le moment qui est le nôtre, les semaines qui viennent, sont un instant grave que nous traversons et qui n'a rien à voir avec des temps ordinaires. Au fond, notre pays, notre société, vit un moment de grand désordre.
Voilà la stratégie d'Emmanuel Macron dans cette dernière ligne droite pour appeler à la mobilisation.
Si l'élection du président de la République est cruciale, l'élection des députés est décisive. Et des équilibres qui se dessineront à l'Assemblée nationale dépendent aussi le destin de la France et des vies quotidiennes de chacun.
Un discours offensif.
Cohérence, compétence et confiance plutôt que posture, désinvolture et aventure, voilà le premier enjeu à mes yeux du 12 juin à venir.
Comme si les récents sondages avaient poussé le président à sortir de sa réserve.
Jacques Serret dans le Tarn pour Europe 1. Jean-Luc Mélenchon, lui, fait savoir qu'il boit du petit lait. Il avait déjà raillé hier soir en meeting à Caen la panique à bord qu'il croit déceler en Macronie. Eh bien, nouvelle réplique cet après-midi. Le leader de la NUPES voit de la fébrilité dans le discours présidentiel à l'approche d'un nouveau verdict des urnes. Et ce n'est pas au président de la République, ajoute-t-il, de mener la campagne des législatives. Les incidents du Stade de France le 28 mai, sous la loupe des sénateurs ce jeudi. Que s'est-il vraiment passé ? Qu'est-ce qui a conduit à ce fiasco sous les yeux de 400 millions de téléspectateurs à travers le monde ? Premier responsable prié ce matin de répondre à ces questions, Didier Lallement, le préfet de police de Paris.
Je regarde ce qui s'est passé autour du Stade de France ce soir-là. C'est à l'évidence un échec, car des personnes ont été bousculées ou agressées, alors que nous leur devions la sécurité. C'est un échec aussi, car l'image du pays, vous l'avez souligné, Monsieur le Président, a été ébranlée. J'assume donc en totalité la responsabilité de la gestion policière de la journée du samedi 28 mai.
Voilà donc pour le mea culpa du préfet de police de Paris, le premier depuis les incidents. Ce témoignage de Didier Lallement a précédé celui des responsables de la Fédération française de football. Pour expliquer la pagaille, la FFF pointe la délinquance, mais aussi le manque de coordination avec la RATP. Une autre audition marquante devant le Sénat aujourd'hui, celle du maire de Liverpool, William Molinier, qui était présent ce soir-là.
Et c'est en visioconférence que Steve Rotherham s'est adressé au sénateur. Colère certes contenue, mais propos fermes. En clair, l'argument des faux billets est pour lui fallacieux.
Monsieur Darmanin et Madame Aoud Castéra ont mis sur pied une version qui pour moi est fausse de 30 000 ou 40 000 faux billets. Mais pour moi, c'est aussi un moyen qui a été utilisé pour se servir des fans de Liverpool comme bouc émissaire. Et je crois que c'est quelque chose qui sert les autorités françaises.
Les Français accusés de mentir et peut-être même bientôt de dissimuler, puisque les images de vidéosurveillance du Stade de France ont tout simplement été détruites, comme l'a expliqué Erwan Leprévost, le directeur des relations institutionnelles de la Fédération française de football.
Sur la vidéosurveillance, les images sont disponibles pendant 7 jours. Au bout de 7 jours, elles sont automatiquement détruites. Et la seule façon, c'est qu'on aurait dû avoir une réquisition pour les fournir aux différentes populations. En revanche, ce que je peux vous livrer, c'est le sentiment que Didier et moi-même avons eu en étant au PC Sécurité toute la journée. Les images sont extrêmement violentes.
Une source judiciaire nous précise ce soir que ces images auraient pu être conservées pendant maximum un mois. Elle s'étonne que la Fédération française de football ne les ait pas d'elle-même sauvegardées et mises à disposition de la justice alors même qu'elles auraient pu constituer des preuves.
William Molinier, c'est donc trop tard pour la vidéosurveillance du Stade de France. En revanche, les images captées par les caméras qui relèvent de la préfecture de police de Paris, elles, ont bien été conservées. Une décision qui peut vous paraître lointaine, peut-être, mais qui en réalité vous concerne toutes et tous, contre l'inflation et la hausse des prix qui s'installent, la Banque Centrale Européenne décide pour la première fois en 10 ans de relever ses taux directeurs. Or, quand la BCE, qui est en Europe le sommet de la pyramide bancaire, actionne un tel levier, eh bien ça a des conséquences concrètes pour nous tous. L'économiste Philippe Crevel vous détaille lesquelles.
Il faut s'attendre dans les prochains mois à des hausses de taux d'intérêt. Ça va concerner l'immobilier, ça va concerner les crédits à la consommation pour ceux qui empruntent. L'objectif de la Banque centrale, c'est de freiner l'inflation. Elle a comme instrument, comme outil, les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt, en fait, freinent l'activité, justement, en dissuadant les entreprises, les ménages à emprunter de l'argent pour acheter. Pour freiner, on va dire, l'inflation, il faut également freiner l'économie Et donc c'est vrai que dans un premier temps, ça peut donner lieu à certains jugements négatifs sur cette politique.
L'économiste Philippe Crevel avec Maud Descamps, freiner l'inflation, oui, mais ça ne se verra pas tout de suite. Pour Christine Lagarde, la patronne de la BCE, il ne faut pas s'attendre à un effet immédiat sur les prix.
Europe Nuit.
Alexandre Lemaire.
On vous en parlait hier sur Europe 1, la fin programmée de la voiture thermique, la fin programmée du moteur à explosion en Europe en 2035, après un vote historique des eurodéputés prenant toute la mesure de l'urgence climatique. À cette date, donc, les seules voitures neuves autorisées à la vente seront soit électriques, soit à hydrogène. 2035, c'est dans 13 ans. Or, dans 13 ans, eh bien, c'est demain pour l'énorme machine que constitue l'industrie automobile, une industrie qui a maintenant 13 ans pour se transformer totalement. Ce sont d'énormes défis à relever, Aurélien Fleureau.
Oui, à commencer par la fabrication des batteries. L'Asie est très en avance sur l'Europe. Il faudra gérer les aspects de souveraineté avec une filière européenne compétitive et sécuriser l'approvisionnement des matières premières comme le nickel, le cobalt ou le lithium. Il faudra aussi accélérer le rythme de déploiement des bornes de recharge, aller 7 fois plus vite que maintenant pour être dans les temps en 2035. Et puis, bien sûr, il faudra faire baisser le prix des voitures électriques qui coûtent pour l'instant 50% plus cher qu'une voiture essence ou diesel, alerte Marc Mortureux, directeur de la plateforme automobile qui représente les constructeurs français.
Malheureusement, ce que l'on connaît aujourd'hui avec la guerre en Ukraine et les tensions inflationnistes ne font qu'augmenter le coût des véhicules électriques. Donc, il y a un grand trajet à faire pour pouvoir rendre les véhicules électriques accessible parce qu'il ne faut pas exclure les classes moyennes, les classes les plus modestes, et là, ça va être un grand défi.
Autre défi majeur, l'emploi. Selon la filière, ce virage électrique pourrait détruire 65 000 postes. Voilà pourquoi la plateforme automobile parle de saut dans le vide et de destruction industrielle.
Aurélien Fleureau, un saut indispensable. En tout cas, la pollution atmosphérique fait 300 000 morts prématurées chaque année en Europe et la route représente un cinquième des volumes de dioxyde de carbone dégagés par l'Union européenne dans l'atmosphère. Après l'effondrement d'un balcon qui avait fait 4 morts en 2016 à Angers, le parquet fait appel des relaxes de l'architecte et du conducteur des travaux. En mars dernier, le procureur avait requis la peine la plus lourde, 4 ans de prison dont 2 fermes, en pointant le bazar, c'est ce qu'il avait dit, qui régnait dans le cabinet de l'architecte, source selon lui d'un laxisme général sur le chantier. Partons maintenant pour la Suisse, où s'est ouvert hier le procès de Michel Platini et de l'ancien patron de la FIFA, Sepp Blatter. Procès pour escroquerie. Les deux célèbres prévenus ont été priés aujourd'hui de s'expliquer sur le versement de près de 2 millions d'euros à Michel Platini. Versement effectué par la FIFA en 2011. Vous avez assisté à l'audience pour Europe 1, Johan Tritz, avec un Michel Platini qui ne lâche rien.
Oui, un Michel Platini a paru confiant, voire conquérant pendant son audition, mêlant humour et attaque tranchante contre ses rivaux pour finir avec le sourire à sa sortie du tribunal.
Très content de m'exprimer aujourd'hui devant le tribunal. C'est un reliquat de salaire, point final. Le reste, vous avez compris après de quoi ça peut venir.
Michel Platini accuse l'actuel patron de la FIFA, Gianni Infantino, d'être à l'origine de cette affaire. Tout ça pour l'évincer de la course à la présidence en 2015, remportée ensuite par le Suisse. Car le paiement de près de 2 millions d'euros est bien légal pour la défense. Salaire qui lui avait été versé en retard pour ses 2 ans en tant que conseiller de Sepp Blatter. Son ancien mentor confirme qu'il n'y a rien de douteux dans cette histoire.
C'est un petit fait administratif. Dire que je voulais le mettre, non. Ça, c'est l'imbécilité la plus grande.
En face, les tentatives de déstabilisation sont restées vaines. Toutes les questions de l'accusation étaient suivies d'un « je ne parle pas à la FIFA », sans surprise pour Maître Olshirazi, avocate de l'instance mondiale du football.
Dans le fond, vous savez, souvent ce sont les questions qui sont plus intéressantes que les réponses. Les faits sont déjà parfaitement clairs au dossier.
Place maintenant aux témoins qui vont être entendus pendant les 9 prochains jours de procès. Verdict attendu le 8 juillet.
Et Johan Tritz, il paraît qu'il était béant. Certains ont même cru à un fake. Le trou qui a été découvert dans la pelouse du stade de Vienne en Autriche est maintenant réparé. Ça veut dire que, comme prévu, les Bleus y affronteront bien l'Autriche demain soir, 20h45 en Ligue des Nations. Vous le vivrez d'ailleurs en intégralité sur Europe 1. En tout cas, pour vous qui êtes déjà sur place à Vienne, Jean-François Pérez, voilà un feuilleton qui aura tenu l'Autriche en haleine.
Oui, c'est une affaire peu banale, hein, qui a même mis en doute pendant quelques heures la tenue du match demain. Un trou, vous l'avez dit, en plein centre du terrain, de la taille d'un ballon de foot, plus de 30 cm de profondeur, dû apparemment aux pluies diluviennes de ces derniers jours sur la capitale autrichienne. Il faut dire que nous sommes à 200 mètres seulement ici du Danube, dont le niveau a brusquement monté, les sols sont gorgés d'eau. Et une équipe venue spécialement d'Allemagne eh bien, a inspecté au rayon X la zone concernée. Un énorme carré de gazon de 5 mètres sur 5 a été posé et tassé. passé à la hâte, on le voit facilement parce qu'il a une couleur différente. L'UEFA a donné son feu vert pour demain, c'est quand même très problématique, hein, évidemment, pour les joueurs potentiellement. Hugo Lloris en a ri en conférence de presse, il a même cru un photomontage. Eh bien non, c'est vrai. Et Didier Deschamps, de son côté, est persuadé que tout se passera bien demain soir. On l'écoute.
L'UEFA a fait ce qu'il fallait pour faire intervenir les experts et valider le match de demain. Donc on s'adaptera, ce sera la même pour les Autrichiens. Donc voilà, à partir du moment où l'UEFA valide, c'est que pour eux, il n'y a pas de risque. Donc on jouera sur cette pelouse.
Voilà, Didier Deschamps, micro de Cyril de la Morinerie. Attention aux trous, donc attention aux pièges aussi, hein, parce que Mbappé, Rabiot et Kanté sont très incertains. Et sachant tout ça, bien sûr, que les Bleus devront faire oublier demain leurs deux récentes contre-performances, la défaite face au Danemark, le nul en Croatie lundi, pour ce qui sera l'avant-dernier match de cette interminable saison.
Jean-François Pérez, notre envoyé spécial à Vienne et à la veille donc de cette Autriche-France. Rendez-vous demain soir, 20h45, en direct sur Europe 1. Le temps pour demain, vendredi, Marlène Duret, eh bien c'est le retour d'un soleil généreux hein, sur une grande partie du pays.
Absolument Alexandre, avec quelques petits bémols quand même. On va commencer par le nord-ouest de la Bretagne et des Pays de la Loire. En remontant vers la Normandie, les Hauts-de-France et les Ardennes, en débordant même un petit peu sur les Yvelines et le Val d'Oise, une matinée nuageuse à couvert, couverte, pas mal de nuages, c'est vrai, des petites pluies aussi ou des bruines dans les régions bordant la Manche, avec, on peut l'espérer, une amélioration l'après-midi dans la mesure où des éclaircies perceront, sauf sur l'ouest de la Bretagne. Quelques brouillards également à signaler au lever du jour entre la Vendée et le Poitou. Et puis sur le reste du pays, vous l'avez dit, soleil généreux, du vent près de la Méditerranée, ce qui peut aggraver les risques de départ de feu. Et puis les températures qui vont remonter, 17 à 21 donc près de la Manche, 21 à 25 sur le reste de la moitié nord, 25 à 29 au sud et même jusqu'à un peu plus près de la Grande Bleue, hein, 29 à 34 degrés.
La tendance pour le week-end en quelques mots, Marlène.
Alors le week-end sera marqué par de fortes chaleurs dans le sud-est, notamment avec des pointes à 35 degrés dans le Gard ou le Var. Samedi, peut-être un début de journée parfois nuageux du côté de la Touraine, la Normandie au nord de la Seine. Après, ça va mieux. Et puis dimanche, on verra le retour d'un risque orageux sur le quart sud-ouest. Mais quoi qu'il en soit, il fera chaud, il fera beau sur l'ensemble du pays. Ce sera un très beau week-end pour profiter de la plage, par exemple, ou de la campagne.
Et bien voilà des bonnes nouvelles. Merci Marlène Duret. On se retrouve dans un instant sur Europe 1 avec Top à Wall Street, puis l'invité politique Denis Sisslik, candidat reconquête aux législatives dans les Alpes-Maritimes. A tout de suite.
Alexandre Lemaire sur Europe 1.
Le Top à Wall Street vous est présenté par BNP Paribas aux côtés des PME et des ETI engagés dans une démarche RSE avec ses solutions de financement à impact.
Top à Wall Street avec Claire Lemaître. Bonsoir Claire.
Bonsoir Alexandre.
De boursier.com, les marchés ont encore été chahutés ce soir à Wall Street alors que la BCE a amorcé, on en parlait, un durcissement de sa politique cet après-midi.
Oui, le climat reste lourd avec un Dow Jones en repli de 1,94%, 32 272 points. Le Nasdaq chute de 2,75%. Les marchés digèrent les annonces de la Banque Centrale Européenne. Sa patronne Christine Lagarde durcit le ton. Elle a entériné la fin de l'argent facile avec l'arrêt de son programme d'achat d'actifs. Et puis pour la première fois depuis 2011, la BCE va relever ses taux en juillet. Une hausse d'un quart de point pour faire face à une inflation galopante. Elle prévoit aussi une nouvelle hausse en septembre qui pourrait être plus importante. Alors ces annonces pèse aux États-Unis où on attend demain justement les chiffres de l'inflation pour le mois de mai. Et si ces chiffres sont élevés, ils pourraient influencer aussi la Fed. Et la prochaine réunion de la Réserve fédérale, c'est la semaine prochaine. Face à ces perspectives de tour de vis, eh bien les taux d'intérêt se tendent des deux côtés de l'Atlantique.
Cette montée des rendements obligataires pèse principalement ce soir sur les nouvelles technologies.
Oui, on a des replis très prononcés ce soir pour Apple, par exemple, moins 3,6%, moins 4% pour Amazon. Meta chute même de 6,4%. Tesla résiste un peu mieux grâce à la hausse de ses ventes de voitures produites en Chine en mai. Et puis par ailleurs, UBS conseille d'acheter la valeur. Le titre limite donc la casse en repli de 0,9%. Les cours pétroliers restent proches de leur sommet de 3 mois. Le baril WTI 7,03%. Il est à 121 $ le baril sur le NYMEX.
Une ambiance pessimiste aussi à Paris où le CAC 40 enchaîne ce soir une 3e deuxième séance dans le rouge.
Oui, le marché parisien qui attendait avec fébrilité les annonces de la patronne de la Banque centrale, Christine Lagarde. Et le CAC 40 cède donc 1,4% ce soir, 6358 points. Du côté des valeurs, on retient EDF. Le titre grimpe de plus de 6% alors qu'une nationalisation se précise. Selon le journal Les Échos, le retour à 100% de l'électricien français dans les mains de l'État figure parmi les chantiers prioritaires du nouveau gouvernement. EDF qui est notamment confronté aux difficultés de son parc nucléaire. Sur les autres marchés en Europe, c'est du rouge ce soir après la BCE. Moins 1,5% pour le FTSE à Londres et pour Madrid. Moins 1,7% pour Francfort. Milan chute de 1,9%. Et à Paris, le CAC 40 recule donc de 1,4%. 6358 points ce soir.
Merci Carl Lemaître.
Europe 1, Alexandre Lemaire.
L'invité politique à 22h20 sur Europe 1. Nous sommes à 3 jours des législatives. Bonsoir Denis Cislik.
Bonsoir, merci de votre invitation.
Vous êtes candidat aux législatives dans la 6e circonscription des Alpes-Maritimes sous l'étiquette Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Vous avez d'ailleurs été le responsable de ces parrainages pour la présidentielle. Vous êtes un jeune candidat puisque vous avez 27 ans. Emmanuel Macron, Denis Cislik, était en déplacement aujourd'hui dans le Tarn sur le thème de la sécurité. Il a annoncé le déploiement dans les prochains mois de 200 nouvelles brigades de gendarmerie sur tout le territoire. Ça va dans le sens de ce que vous défendez vous-même ?
Nous, on a aussi beaucoup défendu pendant cette élection présidentielle. Bien sûr, on entend souvent, il faut le plus de bleus sur le terrain. Et pourquoi pas, ça va dans le bon sens. Mais nous, on pense aussi et surtout, il faut plus de moyens, à la fois des moyens légaux, pour que les policiers aient la possibilité de se défendre effectivement. Nous avions proposé la défense excusable, plus de moyens dans la justice pour qu'on ne retrouve pas des gens qui ont été 90 fois en garde à vue à nouveau dans la rue, plus de moyens aussi matériels pour ne pas que les policiers roulent dans des véhicules qui sont dans des états catastrophiques pour la 5e puissance du monde. Voilà. Nous pensons que c'est là-dessus qu'il faut insister, plus que véritablement sur la quantité d'effectifs qui déjà a du mal à travailler en l'état.
Emmanuel Macron décrit aussi un contexte de désordre social, politique, géopolitique, climatique. Et face à cela, dit-il, les extrêmes proposent d'ajouter de la crise à la crise. Les extrêmes, ça veut dire qu'ils regardent sur sa gauche, Jean-Luc Mélenchon, mais aussi sur sa droite, c'est-à-dire dans votre direction, Denis Cislik.
Moi, je l'ai déjà dit régulièrement, et je ne suis pas le seul à le dire, nous ne nous considérons pas d'extrême droite, nous nous considérons de droite. Nous sommes la droite qu'en réalité, beaucoup de gens ont abandonné. Et je trouve cela d'ailleurs assez misérable de la part du président de la République que de parler ainsi des extrêmes et des gens qui proposent des solutions véritables, puisque M. Macron lui-même a laissé un État qui est dans une situation extrêmement fragile, si ce n'est extrêmement dangereuse. Je pense que quand vous parlez aujourd'hui, comme c'est le cas de beaucoup de candidats Reconquête, et pas que, à des concitoyens, à des gens qui sont aujourd'hui confrontés à une insécurité galopante, qui sont confrontés à de graves difficultés, qui ne supportent plus cette immigration massive, je pense que le président de la République devrait faire profil bas parce qu'il est comptable de ce bilan.
Dans l'affaire du refus d'obtempérer, dans laquelle, je rappelle, la passagère d'une voiture a perdu la vie après des tirs de la police, là aussi Emmanuel Macron répond à Jean-Luc Mélenchon lorsque celui-ci déclare que la police tue. Je n'accepte pas, dit Emmanuel Macron, qu'on insulte les policiers et les gendarmes. Vous rejoignez le chef de l'État sur ce point, Denis Cislik ?
Si vous voulez, je pense que la phrase de Jean-Luc Mélenchon est une énième provocation qui vise à flatter son électorat. En réalité, la police ne tue pas. La police est agressée au quotidien. Aujourd'hui, c'est la police qui subit les agressions quotidiennes de délinquants, de la racaille. Nous parlions précédemment des effectifs de police. Nous ne voulons pas nécessairement plus de police, mais moins de racaille. Et nous vivons dans une époque, et honnêtement, je le déplore un peu, où les rôles sont systématiquement inversés. Les victimes sont culpabilisées et les coupables sont victimisés. Je pense que ça suffit. Et la phrase de Jean-Luc Mélenchon, je n'ai même pas envie de véritablement la commenter, tant elle est caricaturale et surtout provocatrice.
Alors je voyais dans le Rhône, l'un des candidats de Reconquête propose carrément lui un atelier de tir. Il a invité les journalistes, Bruno Attal, à une simulation de légitime défense dans une salle privatisée d'un parc de loisirs. Les journalistes avaient avec eux des pistolets airsoft pour s'entraîner à viser une cible en carton ou encore à simuler des situations de légitime défense. C'est ça que vous souhaitez à Reconquête ? Vous demandez une présomption de légitime défense pour les policiers ?
Oui, nous proposions en réalité la défense excusable qui permettait au juge, et bien sûr c'est le juge qui décide, il ne s'agit pas là de donner un blanc-seing systématique, nous tenons à l'état de droit, mais nous proposions que les magistrats puissent faire sauter l'un des principes qui empêchait en réalité que les policiers, lorsqu'ils étaient parfois véritablement victimes d'une agression odieuse, d'être condamnés derrière parce qu'ils étaient considérés comme coupables par défaut. Et je considère en effet que c'est une solution qui, pour la police nationale, d'abord est réclamée. Je rappelle que les policiers eux-mêmes la demandent et surtout qui serait une solution de facilité et, je pense, une réponse adaptée par rapport à ces difficultés. On voit régulièrement des policiers qui se sont défendus, qui ont essayé de protéger des gens, qui malheureusement ont dû tirer sur des cibles qui menaçaient la vie d'autrui et qui se sont retrouvés dans des situations où ils étaient eux-mêmes condamnés. Ça n'est plus possible et je pense que beaucoup de Français n'en peuvent plus.
Oui, mais Denis Sislik, présomption de légitime défense pour les policiers. On peut légitimement s'interroger sur les conséquences. Moi, je vois ces chiffres. 26 000 refus d'obtempérer en 2021. 3 refus d'obtempérer toutes les heures. Que se passe-t-il dans ce cas-là on change les règles, si on élargit, si on assouplit les règles de la légitime défense.
Encore une fois, je tiens à insister sur le fait que le magistrat apprécie situation par situation. Il ne s'agit pas de dire que dans les 26 000 cas dont vous parlez, il y aura systématiquement un acquittement et donc un blanc-seing donné. Il est important que l'état de droit puisse être encore appliqué, notamment sur ce sujet-là. Pour autant, nous considérons qu'il est normal que la justice puisse parfois avoir un regard moins systématisant, moins systématique sur ces situations-là. Et aujourd'hui, malheureusement, cette systématicité, elle va dans le sens inverse de la police. Nous voulons simplement un rééquilibrage qui permette que les situations soient moins absurdes que celles que nous connaissons aujourd'hui.
Denis Sislik, à Reconquête, vous êtes en guerre avec le Rassemblement national, les candidats soutenus par Marine Le Pen ?
Non, à tout le moins, nous sommes concurrents dans cette élection législative, mais nous le déplorons. Parce qu'honnêtement, c'est dommage que la droite n'ait pas fait ce que la gauche a réussi à faire, c'est-à-dire l'union. Si nous avions réussi à nous unir, si le Rassemblement national, le Parti Reconquête et une partie des Républicains qui partagent nos constats et en réalité même nos solutions s'étaient alliés, nous aurions la possibilité d'avoir une quantité importante de députés à l'Assemblée nationale, ce qui ne sera pas le cas pour des raisons purement pécuniaires, puisqu'en réalité, ce qui a poussé Marine Le Pen à refuser l'union des droites et l'alliance des droites pour cette élection législative, ce sont des raisons pécuniaires et tout le monde le sait. Donc nous ne pouvons que déplorer cela. Pour autant, nous ne sommes pas en guerre, ni contre le Rassemblement national en tant que tel, ni contre les électeurs du Rassemblement national. Simplement, et du fait de la volonté de Marine Le Pen, nous sommes dans cette législative des concurrents.
Ah, vous peinez à peser. Je vois que les sondages vous donnent entre 1 et 4 députés Reconquête à l'Assemblée nationale, lorsqu'à l'inverse, la NUPES, effectivement, l'Union de la gauche que vous évoquiez, s'est dressée comme adversaire principal d'Emmanuel Macron pour ces législatives, avec 28% d'intention de vote. Dernier sondage Ipsos.
Oui, vous avez tout à fait raison, et pour une raison très simple que je viens d'évoquer. Les gauches, avec des désaccords parfois majeurs, entre la France insoumise et le Parti socialiste, il y a parfois des divergences idéologiques fondamentales. La gauche a réussi à s'allier, et nous qui n'avons pas sans doute le dixième de ces divergences idéologiques, nous n'avons pas été capables de le faire. Le résultat, vous venez de le dire à l'instant, et je pense que c'est déplorable, parce que ce sont des raisons d'appareil politique et des raisons financières qui sont passées devant la raison d'État presque, la raison de l'amour de sa patrie et des idéologies que nous portons, c'est bien dommage. Et maintenant, nous verrons bien ce que les urnes diront dimanche prochain. Nous espérons malgré tout envoyer le plus de députés possible à l'Assemblée nationale.
Merci, merci Denis Sislik, candidat Reconquête.
Merci de votre invitation.
Merci à vous, candidat Reconquête aux législatives dans la 6e circonscription des Alpes-Maritimes. On va laisser passer la pub dans un instant. Les unes de la presse et puis Olivier Delacroix qui vous rejoint pour la Libre Antenne. À tout de suite.
Europe Nuit. Informez-vous avec Alexandre Lemaire sur Europe 1.
Un petit coup d'œil à une de la presse demain, vendredi 10 juin. Et oui, on sera demain à l'avant-veille des législatives. Les quotidiens se mettent donc au diapason. Vous ne manquerez pas à cette occasion cette une sarcastique de Libé, le visage de Jean-Luc Mélenchon et les fake news de la Macronie. Cet homme mange-t-il des enfants ? S'interroge Libé à sa une. La dynamique de la gauche unie effraie la majorité présidentielle qui tente de diaboliser Jean-Luc Mélenchon à la veille des législatives, quitte à dire n'importe quoi, écrit Libé. Une menace bien réelle qui pèse sur l'ensemble du scrutin, celle d'une abstention record sur les élections législatives. C'est la une du Figaro. Selon le sondage Odoxa pour le Figaro, la participation s'annonce historiquement basse ce dimanche. Seuls 46% des Français pourraient se rendre aux urnes. C'est donc un scrutin plus incertain que prévu qui s'annonce, titre Lacroix. Le premier tour n'est pas gagné d'avance pour le camp présidentiel. Un scrutin de flou complète 20 minutes. Elisabeth Borne, Marine Le Pen, Éric Zemmour. L'issue du premier tour des législatives s'annonce des plus incertaines pour nombre de personnalités. 22h30, vous êtes sur Europe 1. Bienvenue si vous nous rejoignez. Olivier Delacroix est avec vous, comme promis,
Bonsoir Olivier.
Bonsoir mon cher, comment allez-vous
ce soir?
Oui, alors dites, exactement.
Mais écoutez, ça va très bien, nous avons eu notre invité.
Bon, ah ben voilà, très voilà. Bien. Rappelez-moi le nom du
tout,
petit chenapan hier soir.
C'était Benjamin Cauchy.
Benjamin Cauchy,
voilà.
Qui est interdit là, pendant alors quelques ça... temps.
Écoutez, on verra, l'avenir le dira.
Bon, bah écoutez, moi ça va, bonne journée.
Bon.
Et on est prêt pour cette libre antenne pendant 2h30, tranquillement.
Tranquillement,
ouais.
Sereinement,
sereinement,
mais sûrement.
Exactement. Vous, tout va bien? Tout
mais
roule
oui. Mais oui, tout roule.
Bon,
impeccable.
Très bien. Eh bien, écoutez, on se rejoint tout à l'heure à 23h.
À tout à l'heure,
à
Olivier.
À tout à l'heure.